Chapitre 4 De mystère en mystère. Lorsque le lendemain matin, à 9 heures précises, Gautret apportait à Shuttlecock son chocolat, il trouva son patron installé dans son studio, devant sa table et en train de travailler avec son secrétaire. Le grand limier paraissait aussi frais et dispo que s'il eût dormi 8 à 10 heures consécutives. Sa résistance physique égalait sa santé morale, et de même qu'il ignorait ses défaillances morales qui font perdre aux individus les 3/4 de leur rendement, il ignorait toute fatigue, toute dépression, tant le parfait équilibre de son organisme et de son esprit le mettait à l'abri de toute fâcheuse atteinte. Ces avantages précieux entre tous et qui lui permettaient à l'âge mûr de développer une activité que lui eussent envié tant de jeunes gens, il les devait à la fois à une volonté d'acier, à l'observation rigoureuse d'une hygiène parfaite et à la pratique modérée et rationnelle de certains exercices d'assouplissement grâce auxquels il avait conservé toute sa force et sa souplesse. Son gendre, Jacques Bellegarde, qui avait pour lui autant d'admiration que d'amitié, disait de lui « Oh, mon beau-père a cessé de vieillir à 40 ans. S'il ne lui arrive pas l'accident, il n'y a aucune raison pour que dans 40 ans, il ne soit pas toujours le même. » Voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner si, après une nuit aussi fertile en incidents imprévus, Shuttlecock se trouvait ce matin-là plus en forme que jamais. Gaufret, après avoir déposé son plateau en face de son maître, allait se retirer discrètement lorsque Shuttlecock l'interpellait avec une cordiale familiarité. « Et pas trop flappy, mon vieux ?»« Ben non, pas trop. Dame, on tâche de prendre modèle sur vous. On n'y arrive pas toujours, mais enfin, on fait de son mieux. »« Mais du moment que tu as le sourire, » déclarait le détective, « je suis content. » « Mais avec vous, comment ne l'aurais-je pas ?» s'exclamait l'excellent garçon. « N'êtes-vous pas le meilleur des patrons ?»« Ah, Gautret, tu sais que je déteste la pommade. »«
Ce n'est pas de la pommade, c'est de la vérité. Marie-Jeanne, ma femme, le disait encore ce matin. Cher monsieur, on n'a pas l'impression d'être en place, mais en famille. »
« Mais je ne veux pas vous raser, patron. Vous me connaissez, la vieille date. » Je ne fais jamais de boniment. Ce que je dis, c'est que je le pense. Eh bien, si avec des maîtres comme vous, oh, sûr qu'il n'y aurait pas de crise de domestique. Et en joignant les talons, il fit. À quelle heure vous faut-il la voiture, mon capitaine? Oh, aujourd'hui repos, déclarait le limier.
Oh, monsieur ne sort pas?
Si, mais j'ai l'intention de me servir de taxi et d'user de ces nombreux transports en commun que nous sont dispensés par notre bonne ville de Paris.
Alors, si vous le voulez bien, patron, j'en profiterai pour aider Marie-Jeanne à astiquer ses cuivres.
Fais tout ce que tu voudras.
Merci, patron.
Gautret esquissa un salut militaire et s'en fut, le cœur à l'aise. Quel brave garçon, soulignait Shuttlecock. Ah, celui-là n'est pas un ingrat. Les météores observaient.
Il n'a pas oublié que pendant la Grande Guerre, vous, son capitaine, vous aviez été le chercher parmi les fils barbelés où il était tombé très grièvement blessé et que vous l'aviez ramené dans la tranchée au péril de votre existence.
Et moi, affirmait le grand limier, je n'ai pas oublié que 6 mois après, il me rendait le même service. Vois-tu, petit, cela crée des liens de solidarité et de fraternité. Autrement puissant que ceux des sympathies banales ou des intérêts communs. Et tout en trempant un toast dans la tasse de chocolat à la vanille qui exhalait un délicieux parfum, Shuttlecock ajouta « Allez maintenant au travail, citoyen météore, vous avez la parole. » Le secrétaire tira un carnet de sa poche et l'ouvrit. Il allait commencer à en lire certains extraits lorsque le roi des détectives, les sourcils légèrement froncés, s'écria « Alors, toujours des notes ?»«
Patron, je ne suis pas encore assez sûr de moi. »«
Ah, je te pardonne en raison de ta franchise. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit à ce sujet. Si tu veux devenir un jour un bon détective,
Et tu en as l'étoffe. Il faut t'habituer à enregistrer dans ta mémoire tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Et être en un mot un Kodak pensant. Non pas un gribouilleur de petits papiers qui risque fort de s'envoler au vent et de tomber dans des mains auxquelles elle n'était pas précisément destinée. Compris, patron, déclarait Météor. Et je vais m'appliquer encore davantage à suivre votre conseil. Bien, maintenant, lis-moi ton grimoire. Météor se gonfla les joues, puis, consultant son calepin, il commença à haute voix. Le maître d'hôtel Marco se trouve en ce moment à Paris. Il est entré depuis quelques jours au service de la princesse Rescolini. Ponctua le limier. Oui, 77, chaussée de la Muette, continuait imperturbablement Météor. Quant à la femme de chambre, Suzanne Mortier, elle était également entrée le même jour chez la dite princesse. Il est hors de doute qu'elle est la maîtresse de Marco. Un point, c'est tout. Eh, c'est très bien, félicitait Chantecoq. Ah, ça veut dire, dis-moi maintenant, comment tu as pu te procurer aussi rapidement ces renseignements? Patron, c'est bien simple, répliquait le secrétaire et élève du roi des détectives. Grâce à notre ami Bénardier de la préfecture de police, j'ai pu avoir au service des étrangers l'adresse de Marco, qui s'appelle en réalité Marcolini. Alors j'ai été faire une petite enquête, chaussée de la Muette, où demeure la princesse. Oh, tel épatant, un vrai palais avec un grand jardin, où il y a un monsieur qu'on promène dans une petite voiture. Il paraît que c'est le prince. Et une grande dame brune, très belle, qui n'a pas précisément l'air d'être à la noce. Il paraît que c'est la princesse. Tout à fait du grand monde. Mais cela s'occupait pas, ne m'occupait pas, non, non. Ce qui m'intéressait, n'est-ce pas, c'était Marco et la bergère. Alors je me suis mis en observation et bientôt, j'ai vu sortir par une petite porte de service une jeune camériste, ma foi fort jolie, mais avec un air coquin, hop, pas trop, hein, un air à faire frétiller la queue du cochon de Saint-Antoine. Monsieur Météor, scandait Chantecoq avec un ton de fausse sévérité, je vous dispense de ces comparaisons saugrenues. Excusez-moi, patron, je ne remettrai pas ça. Nous verrons, bien, allez, au fait. Après s'être regonflé les joues, le secrétaire reprit. Alors, tout de suite, mon flair m'avertit que cette jeune personne qui trottinait devant moi en tapant sur l'asphalte les hauts talons de ses élégantes bottines était cette Suzanne que vous m'aviez chargé de repérer. Et aussitôt, je me mis à lui emboîter le pas. Mais la gaillarde, qui m'a tout l'air d'une fine mouche, s'est retournée bientôt et, se rendant compte de mon manège, auquel j'avais volontairement donné une allure amoureuse, elle me lança d'un air beaucoup plus ironique que courroucé. Ah, je vous avertis que vous perdez votre temps. Oh, mademoiselle, voulus-je protester en la saluant respectueusement et en lui décochant mon plus gracieux sourire. Je n'aime pas les gigolos, coupa-t-elle d'une voix sèche et dédaigneuse. Je voulus protester, mais je ne suis pas un gigolo. Mais à peine avait-elle fait cette affirmation si véridique et si facilement contrôlable que je recevais quelque part un formidable coup de pied qui, bien que je sois solide sur mes jambes, me fit cependant trembler sur ma base. Je me retournai et me trouvai face à face avec une espèce de grand type brun, bellâtre d'office, qui m'attrapa au collet avant même que je pusse esquisser un mouvement de défense. Mais là, Suzanne intervenait. Laisse-le, Marco. Avec sa gueule de raie, il vaut vraiment pas la peine d'une correction. Patron, poursuivit Météor, j'ignore si j'ai une gueule de raie, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'avais à ce moment une furieuse envie d'adresser à ce Marcolini un de ces petits directs du gauche dont vous m'avez transmis le secret. Mais je songeais au principe que vous m'avez inculqué, à cet axiome si sage dont tout bon policier doit toujours s'inspirer, jamais de conflit inutile. Alors je me contentais de me dégager timidement et ramasser mon chapeau sur le trottoir et de faire une retraite pour luisante. Parce que ça pouvait bien me faire. J'avais accompli la mission que vous m'aviez confiée. Non seulement je m'étais procuré l'adresse du maître d'hôtel Marco et de la femme de chambre Suzanne, mais j'avais découvert qu'ils étaient amants et maîtresses. Ça valait bien un coup de pied dans le derrière. Météor, félicitait Chantecoq, je suis très content de toi. Tu as fait hier une excellente besogne. Et je ne demande qu'à continuer. Oh, le travail ne va pas te manquer. Tant mieux. Tu vas repartir tout de suite en campagne. Chic. Oh, pas bien loin. Oh, tant pis. Mais j'ai besoin d'être renseigné très fidèlement sur tous les faits et gestes de la princesse Roslini. Mais comme tu es grillé auprès de son maître d'hôtel et de sa femme de chambre, te voilà donc obligé de faire peau neuve, c'est-à-dire de la camoufler de telle sorte qu'il soit impossible à ceux-ci de te reconnaître. Fais-moi donc le plaisir de passer immédiatement dans mon laboratoire. Je te laisse libre du choix du personnage qui conviendra le mieux à ton tempérament ainsi qu'aux circonstances. Et lorsque tu auras achevé ta transformation, tu reviendras me retrouver. Je t'expliquerai alors plus en détail ce que tu auras à faire. Entendu, patron. Virevoltant sur lui-même, leste comme un écureuil, rapide comme une étoile filante, Météor s'élança dans les laboratoires dans lesquels il disparut, tel un de ces personnages de cinéma que l'on voit tout à coup se fondre sur l'écran. Chantecoq saisit son téléphone et demanda un numéro. Sans doute bénéficiait-il de grâces spéciales. Où avait-il su s'attirer la sympathie de la demoiselle des BTT, qui se trouvait à l'autre bout du fil? Toujours est-il qu'il obtint la communication avec une certaine facilité. « Allô !» lança-t-il dans l'appareil. « Le Calmabri ? Ici, monsieur Chantecoq. Voulez-vous prévenir, madame la directrice, que j'ai un mot assez urgent à lui dire ? Je vous remercie, mademoiselle. » Le limier a attendu quelques secondes, puis il reprit. « Allô, ah, c'est vous, madame d'Hérigny. Oh, excusez-moi de vous déranger de si bonne heure. Oui, je sais que vous êtes très matinal. Voilà pourquoi je me suis permis. Vous allez bien? Vous êtes toujours contente? Bravo. Allô, oui, oh, moi aussi, ça va même très bien. Vous êtes tout à fait aimable. » Oui, je voudrais savoir comment va la jeune femme que je me suis permis de vous adresser hier. Bien ? Ah, merci. Oui, elle est tout à fait charmante. Vous seriez vraiment gentil de la prévenir que je lui rendrai visite très certainement avant midi. Entendu. Je remercie madame de Grigny. Si je resterai à déjeuner, oh, je regrette vivement, mais j'ai une journée tellement chargée que j'aurais juste le temps de rester un sandwich, et encore. Allez, à tout à l'heure. Chantecoq raccrocha le récepteur et s'enfuit vers son coffre-fort, dont il retira le papier buvard et la lettre qu'il avait déposée la nuit précédente. Il revint à sa table, sur laquelle il étala les deux documents, et armé d'une grosse loupe, il commença à examiner la lettre avec une grande attention. « Il n'y a aucun doute, » fit-il, « c'est bien une écriture de femme assez habilement contrefaite, mais qui néanmoins conserve certains signes très suffisants par leur caractère personnel pour dévoiler la véritable auteur de ces lignes. Bon, étudions maintenant l'autre pièce. » Le roi des détectives prit dans un tiroir une glace munie d'un appui en forme de chevalet. Il la plaça devant lui et lui présenta la feuille de buvard dont les traces d'écriture, assez nettes d'ailleurs, étaient à l'envers. Le miroir les rétablit à l'endroit. Et Chantecoq déchiffra aussitôt. M7281 M549053-21A, T90RA, BI641, N228, BIO4L68. Tout le reste était complètement brouillé, illisible. Ceci, ce, disait le détective, m'a tout l'air d'une correspondance chiffrée et doit par conséquent dissimuler un important secret. Les chiffres appartiennent certainement à un code de correspondance dont il faudrait avoir la clé. Inutile de leur demander ce qu'ils se refuseraient à nous dire avec cette force d'inertie qui n'appartient qu'aux objets inanimés. Non, voyons plutôt ce que nous donnerait un assemblage de ces lettres placées à gauche et à droite de ces chiffres mystérieux. Tout en maintenant d'une main le papier buvard en face de la glace, Chantecloque prit de l'autre son stylo et se mit à écrire sur une feuille de papier blanc. Mi, mo, za. Ah, Mimosa, murmura-t-il, bah, le nom de la propriété des Rose Granvelle. Tiens, tiens, tiens. Et continuant à transcrire les lettres suivantes, il obtint ceci. TRAIN plus BLEU. Trimbleu! S'exclama cette fois le détective. Mais le trembleu qui a écrasé le contrebert! Et vivement intrigué, il scanda. Mimosa, trembleu, mimosa. Puis il ajouta, voilà qui n'est pas banal. Maintenant que j'ai découvert la signification des lettres, je donnerais bien 2 000 francs pour savoir ce que voudraient dire les chiffres. Il n'y a pas d'erreur possible. Tout le secret du drame est là. De nouveau, son regard s'enfuit vers le miroir qui lui renvoyait l'image du papier buvard, qu'il fixait ardemment, comme il eût voulu arracher son secret. Et bientôt il fit, oh, écriture féminine, celle-là aussi. Au fait, ses yeux se dirigèrent vers la lettre, puis revinrent au papier buvard. Plusieurs fois de suite, ils se déplacèrent ainsi, tantôt avec lenteur, tantôt avec célérité. Puis, après être demeuré un instant entièrement immobile, il formula, il n'y a pas d'erreur possible. Les deux documents sont de la même main, c'est-à-dire celle de. Il s'interrompit et promena. Oh, Shortcock, mon ami, va pas trop vite. Rappelle-toi ce principe fondamental. Il faut jamais s'emballer sur des indices. Certes, il est curieux de rencontrer chez le comte de Rosengvel une cachette identique à celle que j'ai déjà repérée chez la princesse Rascolini. Il est encore plus troublant de constater que cette noble italienne a pris à son service ce Marco et cette Suzanne qui ont accusé Julien Guéret d'être l'amant de la comtesse et fourni de ce chef à ce singulier juge d'instruction marseillais un des éléments les plus sérieux de son instruction. Mais gardons-nous d'en tirer des conclusions trop formelles, trop décisives. Un mystère tel que celui du train bleu ne s'élucide pas en 24 heures. Ni même en 48. Si nous tenons un tout petit bout de fil qui doit nous guider à travers le labyrinthe où nous sommes engagés, gardons-nous, car à la suite d'un geste trop brutal, il nous casse entre les doigts. Après avoir ainsi raisonné, Chantecoq remit la glace dans son tiroir et s'en fut replacé dans son coffre-fort les 2 précieux documents qu'il venait d'examiner, et grâce auquel il apercevait maintenant une toute petite lueur dans les ténèbres où si résolument il s'était engagé. Et au moment où il terminait cette opération, on frappait à la porte qui donnait dans le vestibule. Entrez, fit-il, pensant que c'était son valet de chambre qui lui apportait une dépêche, un pneumatique, une lettre. Il se trompait. Un homme âgé, les épaules voûtées, les cheveux rejetés en arrière, à l'artiste, à la barbe et à la moustache taillée, très près, au nez proéminent et servant de point d'appui à une paire de lunettes en écaille, vêtu d'une redingote noire de coupe disgracieuse et dont les basques battaient sur les jambes d'un pantalon qui, depuis de longs mois, avait perdu son pli de tailleur, s'avançait, tenant à la main un chapeau noir en forme de galette et aux très longues ailes. D'une voix nasillarde, il annonçait « Monsieur Joseph Martinier Ferchaud, de l'Institut !» Chantecoq eut un sourire amusé. « Brave météore, » fit-il. « Ah, oh, bien, voilà une composition des plus réussies. Et une critique, toutefois. Oh, dites, patron, je vous en prie. Tu laisses un peu trop percer le bout de l'oreille. » Eh oui, quand on veut personnifier un homme de 65 à 10 ans, on n'étale pas un appareil auditif aussi rose que le museau d'un jeune chat. Et toi ? Alors, en administrant une tape amicale à son secrétaire, le roi des détectives reprit. Tu vois que moi aussi, je sais me livrer au petit jeu des comparaisons. Météor se contempla devant une glace fixée au mur. « Ah, patron, reconnut-il, comme toujours, vous avez raison. » Et modestement, il ajouta. « Ah, avant de devenir comme vous, l'as des as du camouflage, j'ai un rude chemin à parcourir. Oh, en tout cas, tu es dans la bonne voie. Je cours m'arranger les oreilles. » « Minute !» fit le grand homme en saisissant son jeune collaborateur par le bras, ce qui était le seul moyen de l'empêcher de se volatiliser. Et il continua. « Je voudrais savoir tout de suite pourquoi tu t'es fait la tête de ce vénérable savant. »« Nous, patron, c'est tout à fait simple. Je me rappelle avoir lu récemment dans un journal que la princesse Rascolini possédait une superbe collection de médailles anciennes qu'elle avait réussi à faire venir d'Italie au nez et à la barbe des douaniers de l'illustre Mussolini. Et vous n'ignorez pas que M. Martinier Ferchaud est un numismate des plus distingués. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il ait le désir de visiter une collection qui passe pour l'une des plus belles du monde. Oui, fort bien imaginé, Météor observait. Et je crois que voilà un moyen très vraisemblable de pénétrer auprès de la princesse et de me rendre compte de la disposition intérieure de son hôtel. En un mot, céder le terrain sur lequel il s'agit de m'aventurer. Très bien, approuva Shancock. Mais ce n'est pas tout. J'aurais besoin de me procurer dans le plus bref délai un spécimen de l'écriture de la princesse. Météor se gonfla les joues sous son maquillage, puis il fit avec conviction. Vous l'aurez ce soir, patron. En fait, j'y pense. Au moment du vol de ces bijoux, la princesse ne vous a-t-elle pas écrit ?
Non, non, elle m'a rendu visite et je n'ai correspondu avec elle que par téléphone.
Patron, pardonnez-moi cette réflexion.
Oh, je ne t'en veux pas. Cela prouve que tu penses à tout. Allez, va te vieillir les oreilles. D'ailleurs, moi aussi, j'ai besoin de changer de peau.
Et tout en passant dans son laboratoire avec son secrétaire, le détective fit.
Nos policiers modernes ont bien tort d'afficher un dédain aussi complet du camouflage. Je sais bien que c'est un art qui demande beaucoup d'études, beaucoup de soins, beaucoup de patience. Et voilà peut-être pourquoi, parmi mes collègues officiels ou privés, il compte aujourd'hui si peu d'adeptes. Moi, je lui reste et je lui resterai toujours fidèle, car je lui dois mes plus grands succès. Les vieilles méthodes ont du bon, à la condition de les adapter à son époque. Et je suis bien décidé à ne pas changer ma manière. » Tout en parlant, Chantecoq avait ouvert l'armoire aux défroques et choisi un soutane et un chapeau de prêtre. Moins d'une demi-heure après, il était transformé en un vieux missionnaire qui semblait arriver en ligne droite des confins de la Chine ou du fin fond de l'Afrique équatoriale. Son raccord terminé, Météor n'avait pas cessé de regarder son maître procéder à la transformation de son individu. Ainsi qu'il le disait, il en prenait de la graine. Il le pouvait. Jamais les acteurs, sauf peut-être le grand Guitry, n'avaient atteint une telle perfection dans la façon de composer un personnage. Chantecoq, en effet, ne se contentait pas d'en être l'incarnation extérieure. Il s'identifiait aussi, ses gestes, sa façon de parler.
sa marche, ses attitudes, son caractère, son tempérament jusqu'à son âme. C'était la perfection même. Aussi, lorsque Météore prit congé de lui pour se rendre aux chaussées de la Muette, il eut l'impression que c'était un véritable missionnaire qui lui serrait la main et lui souhaitait bonne chance. Pour un rien, il lui demandait sa bénédiction. Chantecoq, muet en révérend père, repassa dans son studio, et bien qu'il eût la certitude que, sous son costume ecclésiastique, l'œil le plus exercé était incapable de le reconnaître, il glissa dans la poche de sa soutane son revolver, ainsi que la petite boîte rectangulaire qu'il avait emportée la veille, et dont il n'avait pas eu d'ailleurs l'occasion de faire usage. Et il s'en fut, portant à la main une valise qu'il avait prise dans son laboratoire. Il avait déjà cet air légèrement ahuri d'inspire toujours notre capitale à quiconque n'y a pas mis les pieds depuis un certain nombre d'années. Avenue des Ternes, il monta dans un taxi et donna l'ordre au chauffeur de le conduire à l'adresse du Calmabri. Lorsqu'il arriva à la pension, tenue par Madame de Rigny, il était 11 heures environ. Après avoir réglé sa course, il sonna à la porte d'un pavillon d'aspect simple mais confortable. Une jeune bonne, à l'accueil avenant, vint lui ouvrir. « Madame de Rigny, » demanda le détective. « C'est ici, monsieur l'abbé, » répliquait la camériste. « Je viens pour un séjour. Auriez-vous donné la peine d'entrer ?» La soubrette conduisit le détective dans un gentil salon d'attente qui, décoré avec un certain goût, ne ressemblait en rien à ces pièces tristes, aux papiers fanés et aux meubles désuets tels qu'on en voit tant dans beaucoup d'établissements de ce genre. Chantecoq n'attendit pas longtemps. Une jeune femme, qui, elle non plus, n'avait rien de commun avec ces dames âgées, respectables, mais rébarbatives, ou ces commères corpulentes à femmes avérées et trop aimables qui président parfois aux destinées de ces maisons dites familiales, apparut aussitôt. Avec un sourire qui n'avait rien de commercial, elle s'avança vers le faux missionnaire, tout en lui disant avec déférence « Monsieur l'abbé, vous le veuillez donc vous asseoir. »« Merci, madame, » répliquait Chantecoq en changeant de voix. « J'ai l'habitude de rester debout. »« Vous venez, m'a dit ma femme de chambre, pour un séjour. » « Oh, d'une demi-heure environ. » Madame de Rigny regarda son interlocuteur d'un air quelque peu étonné. Elle se demandait si le soleil des tropiques n'avait pas un peu trop chauffé son cerveau ou si, simplement, il ne se moquait pas d'elle. « Mais comment, » plaisantait Chantecoq, « mais comment, chère Madame de Rigny, vous ne me reconnaissez pas ?»« Mais non. Mais cependant, je vous ai téléphoné il n'y a pas 2 heures. » « Vous, monsieur l'abbé ?»« Mais oui, madame de Rigny, pour vous demander si la jeune personne que je vous ai adressée hier... »« Ah, oh, monsieur Chantecoq !» s'exclamait la jeune femme. « Ah, oh, par exemple, oh, jamais je ne me serais douté !» Et sur un ton plaisant, elle ajouta « J'ignorais que vous fussiez entré dans les ordres. Pas pour longtemps !» « La soutane et la barbe de missionnaire vous vont très bien. On dirait que vous les avez toujours portées. Maintenant, dites-moi en quoi je puis vous être agréable ?» Le détective répliquait. « Laissez-moi auparavant vous remercier du service que vous m'avez rendu en accueillant cette jeune femme. »« Oh, mais pouvais-je faire moins pour l'ami que vous êtes ? Lorsque j'ai connu de mauvaises heures, ne vous ai-je pas trouvé ?»« Chut, ne parlons plus de cela !» interrompit Chantecoq. « Votre mari était un de mes camarades du front. Il vous avait recommandé, confié à moi. N'avais-je pas le strict devoir, lorsqu'il n'a plus été là, de vous apporter tout mon appui moral et matériel ? Madame de Rigny, nous allons nous fâcher. Et comme il faudra nous raccommoder, cela vous fera perdre un temps considérable. Or, j'ai besoin de m'entretenir pendant quelques instants avec votre nouvelle pensionnaire, Madame Fégréac. Oui, c'est cela, Madame Fégréac. Oh, quelle femme délicieuse, monsieur Shancock, vous m'avez envoyé comme cliente. Eh bien, tout de suite fait de vous un tel éloge qu'elle m'a été immédiatement sympathique. Je vais tout de suite lui dire que vous êtes là. Madame d'Hérigny s'en fut. Le grand limier en profita pour jeter un coup d'œil à travers l'une des fenêtres du salon qui donnait sur la rue, apercevant sur le trottoir d'en face deux hommes d'une quarantaine d'années, aux attitudes bonasses et à la tenue de corrects bourgeois, et qui, tout en faisant les 100 pas sur un espace assez restreint, ne quittaient pas des yeux la façade de la pension de famille, il grommela: Ah, je constate que les ordres de monsieur le juge de Marseille sont fort bien exécutés par la police parisienne. Alors, j'ai bien fait d'apporter ce qu'il fallait dans ma valise. La porte se rouvrait pour laisser apparaître la comtesse de Roscanvel. À la vue de ce vieux missionnaire, elle demeura interdite. Tout de suite, Shancock demandait: Madame de Rigny ne vous a donc pas prévenu? Marie-Thérèse répliquait: Elle m'a dit que monsieur Shancock me demandait. Eh bien, monsieur Shancock, c'est moi. Ah, maintenant je reconnais votre voix. Mais jamais je l'aurais soupçonné. Et, prise d'une instinctive inquiétude, la jeune femme demanda: Pour vous être déguisée ainsi, il faut que vous ayez un motif très sérieux. Et sans donner au détective le temps de lui répondre, déjà haletante, la comtesse poursuivait: Hier soir, je me suis aperçue que j'étais suivie par des gens suspects. Dites plutôt des policiers. Sans doute ont-ils découvert mon adresse. Oh, c'est infiniment probable et même certain. La preuve, c'est qu'en ce moment, il y en a deux dans la rue qui attendent que vous sortiez pour vous emboîter le pas. Oh mon Dieu, ne vous effrayez pas, madame, et surtout gardez tout votre sang-froid. La nuit dernière, j'ai rêvé que le juge d'instruction Ribécourt avait lancé l'ordre de m'arrêter. Il se peut qu'il en ait l'intention, mais je vous garantis qu'il n'y parviendra pas, à la condition toutefois que vous adoptiez toutes mes directives. Madame de Roscanvel répliquait: Je suis prête, monsieur Shancock, à vous obéir aveuglément. Je vous dirai tout à l'heure ce que vous aurez à faire. Et maintenant, j'ai besoin de vous pour plusieurs questions. Je vous en prie. Oh, elles sont inspirées par les résultats de la perquisition à laquelle je me suis livré hier soir dans votre hôtel de la rue Henri Heine. Interrogez-moi, déclarait Madame de Roscanvel. Je vous répondrai sans la moindre réticence et avec la plus complète sincérité. Le détective martelait: Connaissez-vous, madame, l'existence dans le cabinet de travail de votre mari d'une cachette pratiquée à l'intérieur de la muraille? Avec l'expression du plus vif étonnement, Marie-Thérèse répliquait: Oh non, monsieur. Et Robert devait l'ignorer également, sans quoi il m'en aurait sûrement parlé. Jean de Coq poursuivait: Monsieur de Roscanvel a-t-il fait construire cette maison ou l'a-t-il achetée toute construite? Oui, toute construite, répétait la jeune femme. Avait-elle déjà été habitée? Oui, par son propriétaire. Et pourriez-vous me dire son nom? Le prince Rascolini. Attention, se dit Shancock, nous voilà dans le bon chemin. Et il reprit à haute voix: Monsieur de Roscanvel et vous-même, au moment de l'acquisition de cet immeuble, avez-vous été en rapport direct avec le prince Rascolini? Ah non, monsieur, le prince Rascolini venait d'avoir un accident. Il était hors d'état de recevoir personne et encore moins de traiter une affaire. C'est son notaire et le nôtre qui se sont entendus. Mon mari et moi n'avons eu qu'à poser notre signature sur les actes. Et la princesse Rascolini? Interrogeait le limier. La comtesse répliquait: Oh, je sais seulement qu'elle existe, mais ni de près ni de loin, je ne l'ai entendue jamais et je ne l'ai jamais rencontrée. Le comte Robert non plus, ou pas davantage. Vous en êtes bien sûr. Mais absolument. Je me souviens même qu'un jour, tandis que nous parlions, mon mari et moi, des anciens propriétaires de notre hôtel, mon mari s'est écrié « Il paraît que la princesse Rasconini est une sainte. Elle a d'autant plus de mérite qu'elle est, dit-on, d'une merveilleuse beauté. Vous rappelez-vous, madame, à quelle date M. de Roscanvel vous a tenu ce propos ?» Sans la moindre hésitation, la comtesse déclarait « La veille de notre dernier départ pour le midi. Et combien de temps avant le crime ?»« 3 semaines exactement. » « Bien, » ponctua Chantecoq avec gravité. Comme il gardait le silence, Madame de Roscanvel, timidement, hasarda. « Monsieur Chantecoq, je sais que vous n'avez pas à être interrogé, mais d'après la question que vous me posez, je crois saisir que vous n'êtes pas sans soupçonner. » « Personne encore, » coupait nettement le détective. « Non, je cherche à m'instruire. » Et rompant les chiens, il continua. « Le plus pressé pour l'instant est de vous mettre hors des atteintes de M. de Ribécourt. Vous croyez que je vais être arrêté ?»« Non, je suis sûr, au contraire, que vous ne le serez pas. »« Oh, après tout !» s'écria la jeune femme avec l'accent d'un subtil désespoir. « Oh, que l'on fasse de moi ce que l'on voudra !»« Mais qu'est-ce que j'entends ?» faisait Chantecoq sur un ton de paternelle gronderie. « Comment, vous, que j'admirais hier pour votre fermeté, votre courage, votre grand, votre... Voilà qu'aujourd'hui, parce que 2 inspecteurs de la sûreté ont aux alentours, je vous trouve désemparé, même prête à toutes les folies. Je n'ai pas peur de la prison, et j'en arrive à me demander s'il ne vaudrait pas mieux renoncer à la fuite plutôt que de continuer à mener une existence de bête traquée et de malheureuse qui n'a plus un instant de répit ni un coin pour pleurer en paix sur son bonheur perdu et son honneur en miettes. « Alors, reprochait avec bonté le détective, vous n'avez donc plus confiance en moi ?»«
Oh si, monsieur Chantecoq. »«
Bon, je comprends que vous ayez hâte d'en finir. » Mais hier, je vous ai loyalement prévenu que vous deviez vous armer de patience. Les questions que j'ai bien été forcé de vous poser, la filature dont vous êtes l'objet, vous ont mis les nerfs à bout. Calmez-vous, je vous en prie. Je ne peux rien vous dire encore de précis, si ce n'est que j'ai déjà réuni quelques indices, que je tiens un bout du fil. Mais tout cela est encore trop vague pour que je vous donne des précisions. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Nous avons à surmonter des obstacles difficiles, très difficiles même. Ce n'est pas en vous laissant arrêter que vous arrangerez les choses. Il est indispensable, au contraire, que vous restiez libre. J'aurai certainement encore besoin de vous, et puis j'estime que c'est bien assez d'un innocent sous les verrous. Vous allez m'écouter, n'est-ce pas, madame? Il le faut. Vous me parliez tout à l'heure de votre honneur en miettes. Et votre honneur exige que toute la lumière soit faite. Et puis, songez à celui qui s'est si héroïquement sacrifié. Nous avons à lutter autant et même encore plus pour lui que pour vous. C'est sa tête qui est en jeu. Je ne vous en dis pas davantage. Je lis dans vos yeux que nous sommes d'accord.
Oui. « Monsieur Chantecoq, » acquiesçait Marie-Thérèse en essuyant ses larmes.
« À la bonne heure, je vous prie de me pardonner ce moment de défaillance. »« De grand cœur, la seule chose, madame, que je vous demande, c'est de tenir jusqu'au bout. »« C'est la foi en la victoire qui fait les vainqueurs. »«
Je vous promets que désormais je serai vaillante
et que vous m'écouterez
comme un oracle. »
Bien, ne m'en voulez pas si je vous mets tout de suite à l'épreuve.
Et sur un ton plein de décision calme et d'autorité bienveillante, Chantecloque poursuivit. Il est absolument indispensable que vous vous évadiez de cet abominable cercle de surveillance
que le juge Ribécourt organisait autour de vous. Votre présence étant signalée au calme abri, vous ne pouvez y demeurer plus longtemps.
Je le regrette, déclarait Marie-Thérèse, car j'avais été tellement bien reçue que je m'y serais plu infiniment.
J'en suis sûr, concédait le détective, mais votre sécurité avant tout. Je vais donc vous prier de partir avec moi.
Mais ces agents qui me surveillent, montrant la valise qu'il avait déposée sur un canapé, Chantecoq expliquait.
Veulent vous apporter là de quoi vous faire passer à leur nez et à leur moustache sans qu'ils vous reconnaissent.
Et il précisa.
Oui, c'est une robe de religieuse, avec sa coiffe, naturellement. Je vais vous conduire dans une retraite où je défie les plus malins de nos détectives officiels de vous découvrir où vous pourrez attendre, sous la protection d'amis sûrs, aussi sûrs que moi-même, l'heure de la justice et de la vérité.
C'est entendu, monsieur Chantecoq, je ne vous demanderai qu'une chose.
Parlez.
C'est de faire savoir à Julien Guéret que nous nous occupons de le sauver.
Je vous le promets, madame.
Je vous remercie, monsieur Chantecoq.
Et avec un profond soupir, madame de Roscanvel ajouta
« Il ne me reste plus qu'à endosser ce costume. Qui sait si je ne finirai pas mes jours sous une robe de bure? Ma vie est désormais brisée. Je n'ai plus rien à y espérer ici-bas.
Madame, reprenait le grand limier, il ne m'appartient pas de vous donner de conseils à ce sujet. Je suis un homme trop prudent, trop discret, pour me permettre de faire la moindre incursion dans un domaine qui ne m'appartient pas. Cependant, bien que je ne vous ai rencontré qu'hier seulement, je crois vous connaître assez pour avoir mieux que le droit, c'est-à-dire le devoir, de vous affirmer que, moins que tout autre, vous devez vous laisser aller à un découragement, à un renoncement aussi excessif. C'est un sujet que nous pourrons un jour traiter un peu plus longuement, si vous le désirez, mais pas aujourd'hui. Et les narines frémissantes, comme s'il flairait déjà l'approche d'un danger, le grand limier s'écria. Bon, avisons d'abord au plus pressé. Et il appuya sur le bouton d'une sonnerie électrique placée à la droite d'une cheminée, tout en disant « Bon, je crois qu'il est temps de filer. Aussi, je vous demande, madame, de bien vouloir monter dans votre chambre et de vous habiller en religieuse. » Léontine apparaissait. Chantecoq lui dit « Ma fille, voulez-vous prévenir madame d'Origny que j'ai quelque chose à lui dire ?»«
Oui, monsieur l'abbé. »
La comtesse et la camériste quittèrent le salon. Chantecloque s'enfuit de la fenêtre. Sur le trottoir d'en face, une troisième personnage, qui appartenait à la même série que ceux qui étaient en observation devant le calme abri, avait rejoint ceux-ci et leur parlait avec une certaine animation, tout en leur désignant par instant la pension de famille.
« On dirait, continuait Chantecloque, que les événements vont se précipiter. « Eh bien, soit !»
Madame de Rigny entrait. Tout de suite, le détective la rejoignait en disant
« Ma chère amie, je vous enlève Madame Frégéac. »«
Déjà ?»«
Ah, il le faut. » En deux mots, voici. Cette femme, qui porte un très grand nom, est victime à la fois d'une dénonciation calomnieuse et de l'obstination aveugle d'un juge d'instruction atteint de cette incurable maladie qu'est la déformation professionnelle. Il veut à tout prix et à tort voir en elle une coupable. Et cette malheureuse, oh, j'emploie ce mot à dessein, s'est placée sous ma protection. J'entends la lui accorder pleine et entière. Elle le mérite et son cas est vraiment des plus intéressants. La police l'a repérée et son arrestation, si j'en juge certains symptômes qui ne sauraient me tromper, n'est plus qu'une question d'heure, de minutes peut-être. Alors tout à l'heure, je vais la faire filer d'ici, déguisée en sœur de l'Évangile. J'ai choisi ce costume car sa coiffe dissimule une partie du visage. En cas d'alerte, je suis le père Gardin, et cette dame est sœur Sainte-Madeleine, ma nièce. Si, comme je le prévois, on vient pour arrêter ma protégée, c'est-à-dire la comtesse de Roscanvel. Ah, c'est donc elle? Parfaitement. Eh bien, ma chère amie, vous répondrez que jamais cette personne ne s'est présentée chez vous, du moins sous ce nom. Et si, comme cela est plus que probable, on vous montre sa photo, vous vous écrirez avec toutes les marques de la plus profonde surprise. Oh, je la reconnais, c'est elle, c'est bien elle qui est venue hier soir me demander une chambre sous le nom de Madame Frégérac. Elle n'a fait que passer la nuit sous mon toit, et elle est partie ce matin, après m'avoir réglé sa petite note. De cette façon, ma chère amie, vous ne risquerez aucun ennui, ni vous ni moi. Et somme toute, vous n'aurez fait qu'une légère entorse à la vérité, ce qui est parfois nécessaire, surtout quand on veut sauver un innocent. C'est entendu, monsieur Chantecoq. Vos instructions seront exécutées à la lettre. Le bruit d'une auto s'arrêtant devant la porte attira l'attention du limier. Vite, il se rapprocha de la fenêtre, puis il grommela. « Oh, ça y est! Pourvu que la comtesse soit prête !» D'un bond, il rejoignit madame de Rigny et lui parla à voix basse. Par des hochements de tête successifs, madame de Rigny semblait acquiescer à chacune de ses paroles. Une sonnerie vibra dans l'antichambre. La propriétaire du calme abri se retira vivement après avoir adressé au faux missionnaire un dernier signe d'intelligence. Chantecoq, sous sa barbe, eut un sourire qui n'était pas exempt d'ironie. Puis, se frottant les mains, il dit « Rira bien qui rira le dernier !» Des voix s'élevaient dans l'antichambre. En un bruit de discussion subitement entamé, Léontine, dominant le tumulte, piaillait. Mais puisque je vous dis que madame est occupée et qu'elle cause dans le salon avec un monsieur prêtre. Bourrue, cassante, une voix masculine martelait. Il n'y a pas de monsieur prêtre qui tienne. Je suis le commissaire de police et je veux parler tout de suite à votre patronne. Chantecoq, qui avait entrebâillé la porte, l'ouvrait toute grande en disant « Entrez donc, monsieur le commissaire !» À la vue de cet ecclésiastique, dont l'aspect vénérable eût imposé le respect au plus farouche des mécréants, le magistrat, subitement apaisé, enleva son chapeau et fit avec politesse « Oh, monsieur l'abbé, excusez-moi de vous déranger !» Mais Chantecoq, jouant son rôle en merveilleux comédien, insistait avec onction. « Oh, vous ne me dérangez nullement, monsieur le commissaire, et je m'en voudrais d'apporter la moindre entrave à l'exercice de vos fonctions. » Et il insistait. « Entrez donc, je vous en prie. » Et s'adressant aux deux agents en civil, qui se profilait dans l'antichambre, il ajouta « Vous aussi, messieurs, vous n'êtes pas de trop, au contraire. » Le commissaire et ses subordonnés ne pouvant pas faire moins que de déférer à l'invitation de ce saint homme qui paraissait les dominer de tout l'ascendant de ses vertus. Ils entrèrent tour à tour dans le salon. Le chapeau à la main, mieux que correct, déférent envers ce vieux missionnaire qui les accueillait avec une si cordiale amabilité. Pourtant, le commissaire s'étonnait. « Madame de Rigny n'est pas là. » Oh, « elle est allée chercher ma nièce, sœur Sainte-Madeleine, de l'Ordre de l'Évangile, qui est devenue passer quelques jours à Paris et que je vais reconduire à sa communauté de Brioude, dont je viens d'être nommé aumônier. » Et le détective, qui cherchait à gagner du temps, continuait. « Oh, ce sont mes invalides. Songez donc que j'ai près de 40 ans de colonie. C'est dur, oh, c'est très dur. » Même lorsqu'on est animé de la foi ardente des apôtres. Et puis la France est toujours la France. Et quand on a échappé aux maladies, aux bêtes féroces, hommes ou animaux, et survécu aux martyrs, on a bien le droit de demander à la Providence la permission de s'en revenir passer dans son pays natal le peu de temps qui vous reste à vivre. Mais asseyez-vous donc, messieurs. Ici je suis un peu comme chez moi. Je suis un très vieil ami de la famille des Rigny. Nous sommes même parents, parents très éloignés, mais nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Et Chanteclore parlait, parlait, prêt à raconter au besoin à ses interlocuteurs forcés toutes les histoires que sa fertile imagination pouvait lui inspirer. Mais le commissaire de police commençait à s'impatienter. Il n'était pas venu pour écouter les palabres d'un vieux missionnaire légèrement radoteur, mais pour exécuter un mandat que, sur la demande du juge d'instruction Ribécourt, le parquet de la Seine lui avait ordonné d'exécuter. Le détective s'en aperçut fort bien, et de son air paterne, il reprit « Oh, sans doute, monsieur le commissaire, êtes-vous pressé ?»«
Oui, très pressé, en effet, monsieur l'abbé. »
« Eh bien, je vais aller chercher moi-même, madame d'Hérigny. »« Monsieur l'abbé, vous êtes vraiment trop aimable. Je puis encore attendre un peu. »« Si, 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 j'y vais !» insistait-elle, moins ma adorée compère, en se dirigeant vers la porte. Mais celle-ci s'ouvrait, livrant passage à madame d'Hérigny, qui, tout en simulant un vif étonnement, s'avançait vers le commissaire en disant « On m'a dit, monsieur, que vous désiriez me parler ?»
« Oui, parfaitement, madame.
Un instant, vous vous permettez ?»
Et se tournant vers Chantecoq, elle fit de l'air le plus naturel du monde.
« Mon père, sœur Sainte-Madeleine, est prête et vous attend. »« Je vous remercie, je vais de ce pas la rejoindre. »
Et le roi des détectives s'en fut en saluant.
« Monsieur le commissaire, messieurs les agents. »
Comme il franchissait le seuil, le magistrat, prenant un air sévère, déclarait madame d'Hérigny. Madame, vous devez avoir chez vous une certaine comtesse de Roscanvelle.
Oh non, monsieur le commissaire, vous faites erreur, je n'ai aucune personne de ce nom.
Vous en êtes sûr?
Oh, absolument sûr.
Cependant, les rapports de police nous affirment qu'elle a été vue hier après-midi, pénétrant chez vous, et qu'elle y a passé la nuit.
Alors, c'est qu'elle s'est présentée et fait inscrire sous un faux nom. Voulez-vous que je vous communique mon livre?
Non, non, c'est inutile.
Et sortant brusquement une photo de sa poche, le commissaire fit, en la plaçant sous les yeux de son interlocutrice,
« Reconnaissez-vous cette personne? »
« Oh, parfaitement !» répliquait madame d'Hérigny avec les marques de la plus parfaite candeur. Elle se nomme madame Fégréac.
Non, madame, tranchait net le magistrat. Elle s'appelle la comtesse de Roscanvelle. Et je suis chargé de l'arrêter sous l'inculpation d'assassinat.
Feignant une véritable épouvante, madame d'Hérigny s'écriait. Mais que me dites-vous là, monsieur le commissaire? Comment j'aurais reçu chez moi, abriter sous mon toit une criminelle?
Eh oui!
Mais comment aurais-je pu soupçonner?
Mais nul ne songe à vous incriminer, madame. Je vous demande qu'une chose, c'est de me mettre en présence de cette femme.
Mais c'est impossible, monsieur le commissaire.
Pourquoi?
Elle est partie ce matin à 9 heures, après avoir soldé sa dépense.
Le magistrat eut un geste de désappointement. Puis se raccrochant à une dernière espérance, il fit. Vous a-t-elle dit où elle se rendait?
Non, mais elle m'a demandé, si je recevais des lettres à son nom, de les réexpédier à Marseille, poste restante.
Voilà un utile renseignement.
Et se retournant vers les inspecteurs, qui, penauds et déconfits, avaient écouté attentivement les déclarations de madame d'Hérigny, il s'écria
« Bah, ça, vous autres, mais comment se fait-il que vous ayez laissé filer cette femme dont on vous avait remis pourtant son signalement aussi exact que détaillé ?»
L'un des inspecteurs répliquait « Monsieur le commissaire, je vous jure que mon ami et moi, depuis ce matin 7 heures, nous n'avons pas cessé de surveiller toutes les allées et venues, toutes les entrées et les sorties des pensionnaires et fournisseurs du calmabri. »
Son collègue appuyait « Et si la personne en question était partie, comme le dit madame, nous l'aurions tout de même repérée, prise en filature, ainsi que nous en avions l'ordre. »
Perplexe, le commissaire demandait à madame d'Hérigny, dont le visage avait conservé toute sa sérénité coutumière, « Votre maison, madame, n'a-t-elle pas une autre issue?
Oh, non, monsieur.
Oh, voilà qui est extraordinaire.
Monsieur le commissaire, si vous ne me croyez pas, déclarait la directrice du calmabri, vous pouvez toujours perquisitionner.
Mais c'est ce que je m'en vais faire, déclina le magistrat d'un air renfrogné.
Je m'offre à vous guider moi-même.
Eh bien, allons-y.
Et s'adressant aux deux inspecteurs, il fit
« Vous, J.O., accompagnez-nous, et vous, Lacoste, restez à l'observation devant la porte. »
Au moment où ils allaient tous quitter le salon, Léontine apparaissait tenant une lettre à la main.
« C'est pour vous, madame, » dit-elle à madame de Rigny, en lui tendant la missive, sur laquelle on voyait ni timbre ni cachet de la poste. Comme elle portait la mention « urgente », la directrice du calmabri la décacheta aussitôt et la parcourut. Puis, la tendant au commissaire, elle fit « Prenez !» Le représentant de la loi lut ce qui suit. « Madame, veuillez me pardonner si je vous ai quitté si brusquement ce matin et si mon très bref séjour dans votre maison vous occasionne quelque ennui. Il m'eût été infiniment agréable de rester plus longtemps près de vous, mais en but aux persécutions d'une police qui veut absolument voir en moi une coupable, je me suis trouvé dans la nécessité de trouver une autre retraite où je pourrais préparer en paix ma défense. Dès que la vérité aura triomphé, je me ferai, madame, un devoir et un plaisir de vous exprimer de vive voix toute ma sympathie. Comtesse Marie-Thérèse de Roscanvel, dite Jeanne Fégréac. » Finalement, littéralement abasourdi, le commissaire tournait et retournait la lettre entre ses doigts, regardant successivement d'un œil méfiant et furieux madame de Rigny et les deux inspecteurs. Pendant ce temps, le révérend père Gardin et sa sœur Sainte-Madeleine filaient à toute allure en taxi dans la direction de Saint-Germain-en-Laye.